VOA Afrique, les infos, à Washington.
Bonsoir, il est 19h en temps universel, 21h à Kopang et Letlakeng, c'est dans la région du Kweteng au Botswana, devant ce micro, Nanit Talani, bienvenue à ces Flash Info. L'Argentine au firmament remporte la finale de la Coupe du Monde 2022 à Doha au Qatar après une séance de tirs au but 4-2 et 3-3 en temps réglementaire. Les rêves de troisième étoile de la France se sont brisés sur la furia de l'Argentine au bout d'une finale de légende entre deux astres du football, le prince déçu Kylian Mbappé et le magicien Lionel Messi enfin couronné en Coupe du Monde. En tout cas, ce sera la fin d'une longue attente pour Lionel Messi à son cinquième mondial et après des années de désillusion, le capitaine argentin a enfin été sacré champion du monde. La malédiction est levée et Messi, porté en triomphe par ses coéquipiers après le coup de sifflet final, termine meilleur buteur et passeur du tournoi, 4 buts et 5 passes décisives. Mbappé, avec 8 buts, finit meilleur buteur du tournoi. Le ministre français de l'Intérieur, Gérard Darmanin, annonce ce dimanche un retour à une relation consulaire normale avec l'Algérie depuis lundi dernier concernant l'octroi de visa par la France aux ressortissants de ce pays. Monsieur Darmanin, qui était en déplacement en Algérie, a tweeté sa déclaration à l'issue de son entretien avec son homologue algérien. Depuis la crise du Covid-19, la France avait drastiquement réduit le nombre de visas octroyés à l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, les conditionnant à des efforts de ces pays pour accepter leurs ressortissants expulsés de France. Cette normalisation de l'octroi de visa aux ressortissants algériens survient après celle de la Tunisie fin août et celle avec le Maroc annoncée vendredi par la diplomatie française. L'Iran affirme ne pas avoir besoin de la permission de qui que ce soit pour développer ses relations avec la Russie, après que les États-Unis se sont inquiétés du partenariat militaire à grande échelle entre Téhéran et Moscou. La République islamique d'Iran, conformément à ses intérêts nationaux, agit de manière indépendante pour réguler ses relations étrangères et ne demande la permission à personne, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani, dans un communiqué. Kiev et ses soutiens occidentaux accusent la Russie d'utiliser des drones de fabrication iranienne pour mener des attaques en Ukraine. L'Iran reconnaît avoir fourni des drones à la Russie, mais assure que ces livraisons avaient eu lieu avant l'offensive russe en Ukraine. Restez branchés 24 heures sur 24. Poursuivons ce Flash Info avec les États-Unis où la commission qui a entraîné la responsabilité de l'ancien président Donald Trump dans l'attaque menée par ses partisans contre le Congrès livre ses conclusions lundi. Ce compte rendu intervient un an et demi d'audition et plus d'un millier de témoignages.
Bien sur VOA Afrique, 24h sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
Le groupe État islamique revendique une attaque meurtrière perpétrée ce dimanche contre des policiers dans le nord de l'Irak. Les combattants de l'État islamique ont attaqué une patrouille de police, ont déclenché un engin explosif, puis les ont attaqués avec des mitrailleuses et des grenades, a déclaré le groupe dans un communiqué publié sur l'application de messagerie Telegram. La Belgique appelle ses ressortissants de passage en Iran à quitter le pays dans les plus brefs délais à cause du risque accru de détention arbitraire après la condamnation de l'humanitaire Olivier Valcastel. Tout visiteur belge, y compris binational, s'expose à un risque élevé d'arrestation, de détention arbitraire et de jugement inéquitable. Ce risque concerne également les personnes effectuant en Iran un simple séjour touristique, a mis en garde le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Une personne a été tuée ce dimanche et 8 autres ont été blessés dans des frappes ukrainiennes sur la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, selon une annonce sur Telegram du gouverneur de la région. C'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi.
Cœur de l'info sur VOA Afrique.
Et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bienvenue dans ce dialogue des religions, chers fidèles auditrices et auditeurs de VOA Afrique. Eric Manirakiza avec vous. La mise en onde est assurée par Gisèle Morissin. Ce soir, nous parlons des dieux du football. L'Argentine est la première équipe qualifiée pour la finale du Mondial 2022 de football qui s'achève le 18 décembre dans un stade de Luseil, acquis aux canciens et blancs. Les trois buts inscrits ont libéré les milliers de supporters argentins massés dans les gradins, religieusement dévoués à la cause de leur numéro 10, Lionel Messi. Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Tarsis Haririmana, journaliste olympique indépendant et spécialiste du ballon rond, est avec nous en ligne. Il se trouve à Ottawa, au Canada. Tarsis, bonsoir.
Bien, bonsoir Eric, bonsoir. On est en train effectivement d'assister à ce match Maroc-France. Pour le moment, les dieux sont du côté de la France qui vient de marquer un but.
Un but très matinal, on dirait.
Oui, très matinal. À l'image de ce qui s'est passé hier entre l'Argentine et la Croatie.
Mais les dieux sont toujours justes.
Oui, parce que les dieux, il faut dire que quelque part, partout sur la planète, les voyants, à l'image de la petite Odelf, ont été consultés et ont déjà annoncé le destin de l'une ou de l'autre équipe.
On ne va pas dire que les dieux ont lâché les Marocains qui ont été très efficaces. Ok, nous avons un deuxième invité qui se trouve également à Ottawa, au Canada. C'est Benoît Eli Awazi Mbambi Kungua, qui est fondateur du Centre de recherche pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et des diasporas. Benoît, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Bienvenue encore une fois dans le dialogue des religions. Alors Benoît, je vais commencer avec vous. Les supporters argentins ont dit qu'ils sont religieusement dévoués à la cause de leur numéro 10, Messi. Pourriez-vous nous aider à comprendre ce que ça signifie?
Merci. Je crois que le football, surtout la Coupe du Monde, comme vous savez, réunit vraiment le monde entier, les différentes nations du monde. Et au-delà des enjeux strictement sportifs, il y a comme une confrontation des visions du monde, une confrontation des religions, des spiritualités, des cultures et des philosophies. Effectivement, quand vous voyez même l'Alliés qui prend le stade quand il y a des buts, ils sont marqués, et même les joueurs eux-mêmes, ils montrent ouvertement les gestes de prière, ils se mettent à genoux, ils lèvent les mains au ciel. C'est pour montrer que, à travers le sport, il y a une vision du monde au sens plus fort du terme vision, c'est-à-dire une philosophie de la vie. En d'autres termes, en jouant là sur le stade, il y a une confrontation des différentes religions, comme j'ai déjà dit, mais aussi les acteurs eux-mêmes sont là parce qu'ils se savent comme inspirés, ils se savent comme habités par des forces spirituelles qui leur permettent de faire leur performance. Et une autre chose que je dirais comme ça d'entrée de jeu, c'est montrer que au-delà de cette vision du monde, il y a une question de la religion. Voilà, religieusement, vous avez dit que les spectateurs sont religieusement focalisés sur ces performances sportives. Mais c'est parce que la religion nous dit qu'il y a une communication entre le ciel et la terre, et cette communication se passe à travers la prière, par l'invocation des humains, des croyants, envers leur Dieu, ou bien envers leur divinité, selon les religions. Et cela se voit concrètement dans le stade, quand les joueurs lèvent les mains au ciel et expriment la connexion, parce que la prière établit une connexion entre le ciel et la terre. Et le numéro 10, pour terminer cette première intervention, le numéro 10, Messi, mais il nous fait penser à Maradona. Maradona qui est même aujourd'hui reconnu parmi les dieux du football dans le monde. Et Messi, en performant hier quand il a performé, effectivement pour les supporters, c'est tout à fait une confirmation qu'il est le nouveau Maradona d'aujourd'hui.
Le petit lutin est mythique, n'est-ce pas, à Tarsis, le talent et la magie, je ne sais pas, du ciel.
Oui, ben, pour Messi, il y a une certaine comparaison avec, évidemment, Maradona, par sa taille, son organisation sur le terrain. Mais il faut dire que c'est un produit odieux. Et là, il y a en fait trois dimensions, comme dans la Grèce antique. Vous avez le corps et l'esprit, mais vous avez quelque chose de caché parce que à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur aussi de votre esprit, il y a le destin, si vous voulez, qui te guide parfaitement. Et là, c'est pas pour rien qu'on doit consulter un divin ou aller à Delphes bien chercher à comprendre ton avenir. Mais au-delà de ça, il y a sur le terrain où les gestes d'un sportif, de Messi ou de Maradona, tout ce qu'il est en train de faire sur le terrain, c'est Dieu qui lui a donné ça. Et là aussi, et même le ballon, la progression du ballon, le pied et tout ça, tout est coordonné. Il y a quelque chose de mystique qu'on ne contrôle pas et que les gens imaginent que c'est une force qui vient d'ailleurs, quelque part, et qu'on ne voit pas. Il y a l'invisible qui devient le visible après le résultat.
Tarsis, vous avez visité l'Argentine. La croyance, c'est un facteur important dans la tête des Argentins quand on parle du football.
Oui, il y a d'abord le rituel amérindien qui n'a pas été effacé complètement par les églises ou l'Église catholique. Et même actuellement, les églises protestantes. Et dans ce pays-là, il y a une sorte de symbiose de croyances, et surtout aussi dans des quartiers pauvres. Et même dans le monde rural, on ne vit que ça. On ne peut pas faire quelque chose sans consulter quelque part ou sans méditer pour effectivement avoir un éclairage, si vous voulez, en termes religieux, une lumière qui t'éclaire, qui te guide et qui va te conduire au sommet ou effectivement à ton destin comme ça a été tracé par Dieu.
Benoît Awazi, vous avez parlé tout à l'heure de cette manière de célébrer des buts chez certains joueurs. Est-ce que ça signifie que, au-delà du talent, il y a une intervention divine?
Merci Eric, je suis tout à fait content de l'intervention de Tarsis qui a vraiment frappé au cœur de la cible. C'est-à-dire, et je me permets de citer une phrase comme ça de mémoire de Platon dans le Phèdre. Hein, Tarsis a parlé de la tragédie grecque, de l'antiquité grecque. Voilà ce que dit Platon. Chacun, chaque âme, passe son existence en imitant autant qu'il le peut le Dieu dont il fut le corrupt. Un corrupt, c'était des acteurs dans la tragédie grecque, dans le théâtre. Les corrupts, c'était comme des choristes qui déclamaient ou bien qui chantaient les performances théâtrales dans la tragédie grecque. Et c'est tout à fait ça. Hein, comme Platon vient de dire qu'on passe notre vie en imitant les performances du Dieu dont on était le corrupt avant de venir dans le corps, dans le monde. Ça, c'est tout à fait platonicien, c'est grec. C'est-à-dire, notre vie ici, prenons le cas de Messi, de Maradona, et de tout le monde là, Mbappé et les autres, c'est d'abord une vie qu'ils avaient déjà vécue au ciel, dans le monde des idées, dans le monde des archétypes, et cette vie, maintenant, ici, sur Terre, elle est comme aimantée, elle est comme arrimée, elle est comme corrélée à cette vie, avant la venue dans le corps. Hein, c'est tout à fait la philosophie grecque de Platon. L'âme est déchue dans le corps, mais elle peut, par la philosophie, retrouver, récupérer, recouvrer les archétypes éternels. Donc, c'est tout à fait ça, Eric. Tarsis vient de le dire aussi. Les acteurs sont comme catalysés. Il y a comme, on appelle ça, la catharsis. Les acteurs sont comme décuplés. Leurs forces sont décuplées par l'intervention de Dieu. Hein, c'est ce qu'on appelle l'enthousiasme. Effectivement, il y a un enthousiasme. L'enthousiasme, c'est d'abord l'enthousiasme des joueurs, mais qui se propage dans le public, chez les spectateurs. Enthousiasme, enthousmos, en grec, ça signifie Dieu en nous. C'est tout à fait ce que Tarsus a dit avec beaucoup de doigté, avec beaucoup de précision, que nous sommes dans cette vision du monde. Et je permets de finir en disant que cette vision du monde et le football est comme le miroir, est comme le microcosme de l'humanité. On parle le mondial, c'est tout le monde qui est là. C'est l'humanité qui est là, avec ses religions, avec ses croyances et avec ses valeurs. Et quelle est la leçon qu'on doit tirer? On doit tirer cette leçon que nous ne pouvons pas donner du sens à notre vie seulement par des considérations technoscientifiques, économiques. Parce que il y a la frontière de la mort. La religion nous permet de négocier le fait que nous sommes mortels et on ne peut pas s'en sortir sans faire intervenir une divinité ou bien Dieu lui-même. Et Dieu avec ses intermédiaires. Donc je suis d'accord dire que dans les performances, il y a une dimension de l'invisible, parce que Dieu est invisible, c'est tout à fait juste. Hein? Comme personne n'a jamais vu son esprit. Mais peut-être, je termine en disant que, mais de ne pas basculer dans l'autre extrême, c'est-à-dire le magico-religieux, qui, à mon avis, qui est vraiment l'un des principaux défis de l'Afrique subsaharienne, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas d'abord la politique et les guerres. C'est cette mentalité qui paralyse les Africains, c'est-à-dire Maradona, Messi, Mbappé ne seraient pas ce qu'ils sont sans l'entraînement, sans l'exercice. Hein? Le grec, comme on est en train de parler d'eux, il parle de askeo. Askeo, c'est la sèse, l'entraînement. Donc il y a à la fois, pour répondre à ta question Eric, l'entraînement, la sèse, askeo, mais aussi la baraka, le génie, l'intervention divine. Hein? On est dans un monde où on pense que Dieu n'existe pas, où la religion ne peut pas être jugée par les outils de la technoscience. Parce que Dieu est invisible, or d'autres sciences travaillent avec le matériel, le visible, et les mathématiques.
Tarsis, on a souvent entendu PD être appelé le dieu couronné du football. Le dieu couronné du football.
Oui, bah évidemment, même si lui dit, bah si on m'appelle Dieu, il y a un autre qu'on peut appeler, si on m'appelle le roi du football, il y a un autre qu'on peut appeler le Dieu, effectivement, du football. Là, on parlait de certains d'un Marocain qui avait brillé à l'époque à Madrid ou ailleurs. Donc là, on parle encore de l'équipe du Maroc. Oui, pourquoi? Parce que en fait, ce qu'on vient de dire, c'est que sur le terrain, c'est vrai, une bataille qui est en train de se mener à l'image des Grecs où, évidemment, Achille va dire, mais écoute, je préfère la vie courte que la passion, que la victoire, que finalement la gloire. Et la gloire, c'est ce qu'on cherche. La victoire, elle n'est pas seulement pour le peuple. La victoire, elle est aussi pour le Dieu qui t'a donné cette force et cet esprit de vaincre. Et ça, c'est ce qui se passe au niveau du football, le match qu'on est en train d'assister. Il y a d'un côté, évidemment, le Maghreb, l'Afrique et le monde arabe qui sont derrière cette équipe, qui vient d'humilier non seulement le Portugal de Ronaldo, mais aussi l'Espagne, la Belgique et la Croatie. C'est pas un hasard. Et au-delà de l'exploit attendu, ce sont les dieux qu'on implore. Pour qu'ils aveuglent, si vous voulez, le gardien Loris, ce qui n'a pas été fait, peut-être que Loris aussi a son dieu, et de l'autre côté, qu'ils ralentissent la vitesse de pointe de Kylian Mbappé et détournent des trajectoires, tous les ballons qui sont lancés par Giroud ou Griezmann. Ça, c'est du côté, finalement, du Maroc. Mais de l'autre côté de la France aussi, eh bien, on pense à quelque chose, chacun individuellement, dans la communauté, les parents de ces joueurs qui sont en train de jouer, ce sont des parents peut-être venus d'Afrique, des grands-pères, des mamans, et qui discrètement sont consultés parce qu'on a l'habitude de le voir. Et un coup de fil actuellement qui dit à ma grand-mère, bon, je vais faire un grand match, je vais livrer un match héroïque, donnez-moi la bénédiction, mais la bénédiction qui va venir, ce n'est pas cette bénédiction de l'humain, c'est la bénédiction de l'autre, c'est la bénédiction de l'invisible, du divin. Donc, voilà en fait le résumé, parce qu'on on sort d'une, des sociétés, de, des cultures différentes, mais au niveau du football, les deux équipes qui s'affrontent, évidemment, ils implorent leur Dieu différemment, l'invisible qu'on ne voit pas sur le terrain, et qui se manifeste effectivement quand on loupe un but. On va dire que bon, écoute, c'est quelque chose qui a été fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que la FIFA, à un moment donné, a interdit le port de, des objets sur les coffres de, disons, le talisman. On parlait de talisman à l'époque au niveau de, par exemple, de l'Amérique latine et de l'Europe. Donc, il est interdit de porter quelque chose sur le corps. Hein. Ça, on a l'habitude de voir en Afrique. On croit au fétichisme.
Donc, Tarsis, ce ne sont pas seulement des joueurs qui ne sont pas les seuls à prier pour qu'ils gagnent leur rencontre.
Non, au-delà de ça, il y a d'autres qui sont en train actuellement de prier pour le Maroc. Il y a des choses qui se passent au niveau même de la France. Il y a des gens qui sont enfermés quelque part avec un vieux ou des vieillards qui sont en train de faire leur truc. C'est comme ça qu'il faut voir le match qui est en train de se passer actuellement. Et maintenant, est-ce qu'on peut vous dire... Et là, c'est toutes les religions qui se mélangent, je viens de le dire tout à l'heure. Il y a le Coran, il y a le christianisme, il y a maintenant nos traditions aussi. N'oubliez pas que il y a des joueurs qui sont en train de jouer, qui viennent... du Maghreb, mais aussi de Kabylie, ou quelque part. Là, ils ont leurs traditions au niveau du Maroc, du côté de Marrakech, du côté de l'Afrique, avec les joueurs africains, d'origine africaine, qui sont en train de jouer au sein de l'équipe de France. Il y a des trucs qui se font. Et là, tu peux pas dire, expliquer ça scientifiquement. Eh bien, il faut vivre avec, et c'est ça, c'est la magie du football, et c'est pourquoi la plupart des gens parlent des dieux du football.
Oui, il y en a qui ont ironisé sur les médias sociaux, qui disaient que l'équipe du Maroc est composée d'Européens et que l'équipe de France est composée d'Africains. Oui. Benoît Awazi, il y a plusieurs versets de la Bible sur le football, en l'occurrence dans 2 Timothée 2:5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Que faut-il entendre par ça?
C'est ça. Donc le verset, oui, c'est ça. Ça concerne bon, le sport en général, pas seulement le football, mais le sport en général. Hein, comme on a dit là dans le monde grec, c'est Saint Paul. Hein, c'est un type qui connaît bien la culture grecque. Donc il y a les règles du jeu. Hein, c'est pourquoi dans un terrain, il y a aussi un arbitre assisté par ses assistants hein, qui doivent veiller à ce que les choses se passent dans l'orthodoxie, c'est-à-dire dans le règlement, hein, selon les lois canoniques, d'une part. Mais d'autre part, c'est pour montrer que même dans la religion, c'est ça, il faut lire, mais quelle est l'exégèse de cette phrase de Saint Paul? C'est pour dire qu'il y a une logique dans tout, vous comprenez? La religion, ce n'est pas l'irrationnel, et c'est là peut-être il faut corriger hein, une certaine conception qui consiste à faire croire aux gens que, bon, un théologien, bon, c'est pas vraiment très sérieux, quoi, c'est un ignorant, c'est pas la vraie science, mais c'est celui qui dit comme ça qu'il est ignorant, vous comprenez? C'est-à-dire, tout à l'heure, nous venons de dire que l'invisible n'apparaît pas à nos yeux tels qu'ils sont là aujourd'hui, les yeux scientifiques. Donc, les règles du football, les règles de la religion, les règles de l'université, les règles du gouvernement, les règles de l'armée ne sont pas les mêmes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est l'analogie. C'est-à-dire, dans chaque domaine, il y a les règles, il y a les lois. Et l'acteur n'est vainqueur que quand il a performé en suivant ses règles. Je pense que là, il y a une leçon à tirer pour chacun de nous, là où nous sommes. Hein? Il y a les règles à suivre. Et peut-être, comme on a déjà dit tout à l'heure dans nos échanges, pour le pays africain, bon, il y a aussi les règles. Je reviens, Eric, sur la composition, cette boutade qui circule dans les médias sociaux, effectivement, qui dit que l'équipe de France est composée par des Africains, et l'équipe du Maroc est composée par des Blancs. Bon, là, si on voit la couleur de la peau, effectivement, il y a beaucoup de Noirs, Africains subsahariens dans l'équipe de France. Mais qu'est-ce que nous faisons? Mais ça montre qu'il y a eu l'histoire. Il y a eu le déplacement des populations, des migrations, des cultures, des religions. Et aujourd'hui, notamment ici en Occident, Amérique, Europe ou dans les grandes villes argentines, il y a ce métissage culturel, racial aussi, hein, qui date bien sûr de la traite, de la colonisation. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est tenir compte de cette variété, de cette mosaïque de cultures et de peuples, des religions et de foi, et essayer de trouver, hein, un vivre ensemble, hein, cohérent, harmonieux, selon les règles, bien sûr. Et je termine en disant que pour la France, par exemple, vous voyez que, hein, la France aujourd'hui, surtout dans beaucoup de pays africains, hein, beaucoup de jeunes disent nous ne voulons plus le néocolonialisme, il faut arrêter les bases militaires, le franc CFA, mais aussi dans les banlieues même. Les banlieues en France, pour moi, ça c'est ma lecture, c'est une reproduction de l'Afrique, mais d'une manière subalterne. Vous comprenez? C'est comme le retour de l'histoire, il y a l'Afrique postcoloniale dans les banlieues. C'est tout à fait l'Afrique, mais qui est dans des ghettos. Et avec tous les problèmes que cela pose dans l'actualité, il faudra peut-être en parler pour une autre émission.
Tarsis, Messi rêve de mener l'Argentine à la victoire pour enfin égaler Diego Maradona. Et pour tout le peuple argentin, Diego attend Léo au paradis du football. Au paradis du football.
Oui, pour le peuple argentin, c'est que Dieu a prédit ça. Il y a une sorte de mysticisme. Donc Dieu, qui a donné le pouvoir et la force de Maradona de faire le triomphe, proposer un triomphe magnifique aux Argentins, surtout face aux Anglais, dans des moments aussi difficiles. C'est pourquoi il y a des chants qui sont chantés qui font allusion à cette guerre de Malouines. Mais bon, c'est quelque chose de prédit. On doit avoir un autre Messie, on doit avoir une autre personnalité légendaire, ritualiste, qui doit être considéré comme un produit argentin offert par Dieu. Ça, c'est tellement important quand on parle de Messie. Et quand tu observes le parcours de ce joueur avec cette Ballon d'Or, tous les efforts qu'il a fait, il n'a pas abandonné, il a continué à jouer avec l'équipe d'Argentine, en se référant aussi à Pelé. Lorsque Maradona est arrivé, l'Argentine a dit, ben écoute, nous avons notre Pelé à nous, qui peut faire des merveilles. Et alors, il y a eu donc l'arrivée de Messi, et qui porte un nom aussi, qui colle bien à travers, quand on parle des communautés. Mais tout à l'heure, notre invité a mis l'accent sur quelque chose de très, très, très important. C'est cette sorte de religiosité que l'on trouve sur le terrain, que l'on trouve dans le domaine du football, qui vient d'ailleurs et qui est aussi dedans, au niveau, même sur le terrain, qui se manifeste parce qu'il y a des gestes. On peut voir quelqu'un qui est en train de prier Dieu, qui après avoir marqué un but, il lève le regard vers le ciel. Ça, c'est ce qui est intéressant avec le foot, l'image du football, c'est que nous avons toutes sortes de religiosités, des religions qui sont sur le terrain et qui s'accolent, qui s'admirent. Bon, quand il y a un vaincu, eh bien, le vainqueur est applaudi. Tristesse, oui, mais ce n'est pas un champ de bataille. On accepte les règles. Ça, c'est la force absolument du football. Et du sport en général.
Benoît Awazi, il nous reste 30 secondes au paradis du football. Que faut-il entendre? Messi est encore vivant.
Tout à fait. C'est ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire par la prière, par la religion, il y a une communication entre le ciel et la terre qui est rendue possible par Dieu. Donc, la mort sépare Messi et Maradona. La mort, parce que Messi n'est pas encore mort, comme vous venez de le dire, mais par la prière, Dieu qui a créé le ciel et la terre, la vie et la mort, a les moyens, à partir de son logiciel, de son GPS, on peut dire ça, de faire communiquer les deux. Mais cela, c'est ce qu'on appelle l'invocation, la prière, la liturgie. Parce que le football, le match, c'est une liturgie. Hein, c'est un spectacle. Hein, et une liturgie, c'est aussi une action. Ergum, liturgia, ça signifie une action pour toujours rendre gloire à Dieu pour ce.
Merci Benoît Eli Awazim Bambi Kungwa, fondateur du Centre de recherche pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et des diasporas. Merci à Tarsis Harimana. C'était le dialogue des religions sur les dieux du football. Eric Manelakis a été avec vous. Joselle Morissin a assuré la mise en onde. Au revoir et à la prochaine.